Bonjour.
C'est cette médecine génomique. Aujourd'hui, elle permet déjà de traiter certaines maladies, des maladies génétiques ?
Oui. Il s'agit de maladies relativement rares. Par exemple, dans le domaine des maladies du poumon, la mucoviscidose, si on fait des tests génétiques pour bien déterminer quel gène dysfonctionne, il y a des traitements à disposition pour corriger le fonctionnement de canaux qui sont à la base de la maladie, ou dans le domaine du sida ou de l'infection HIV, ou je pense aussi au domaine de l'oncologie médicale, c'est-à-dire de la discipline qui s'occupe du traitement de maladies malignes, où soit l'analyse génétique de la personne, donc du hôte, permet de donner des prévisions, soit l'analyse génétique du tissu tumoral qui permet dans certains cas, de cibler le traitement faire disparaître ou améliorer le pronostic des patients. C'est trois, quatre exemples, mais ça reste encore relativement confiné dans plusieurs disciplines médicales.
Ça veut dire que c'est assez nouveau. Est-ce que ça veut dire que par la suite, on peut imaginer d'autres maladies, d'autres pathologies qui peuvent être soignées par le biais de la médecine génomique ?
Alors absolument. Moi, je pense qu'il faut remettre cette médecine génomique dans le contexte. Ce qu'on sait, c'est depuis très longtemps que toutes les maladies ont une composante génétique. La composante génétique varie d'une maladie à l'autre. Il y a des maladies comme celle citée par le professeur Maline Vernier, comme la mucoviscidose, qui est presque entièrement génétique. Et puis il y a des autres maladies, les grandes maladies, le diabète, l'obésité, l'asthme, etc. On estime que ces maladies ont à peu près 50% de composantes héréditaires et 50% qui est dû à l'environnement. Aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver, c'est une vraie révolution technologique qui fait qu'on peut séquencer le génome d'un individu et qu'en séquençant le génome d'un individu, je rappellerai qu'on parle ici d'un énorme livre, si vous voulez, qui a la taille de 1000 bibles, avec un alphabet de 4 lettres seulement, assez TG, qu'en décryptant ce génome, on arrive aujourd'hui à mettre, si vous voulez, un nom sur les maladies et apporter un diagnostic qu'on appellera un diagnostic moléculaire, c'est-à-dire de comprendre au niveau vraiment des molécules pourquoi une maladie survient chez un individu et de pouvoir éventuellement la prédire et la traiter. Donc aujourd'hui, cette médecine génomique, comme on peut l'appeler, a vraiment un objectif diagnostique. Mieux comprendre la base d'une maladie, mieux poser un diagnostic, mieux comprendre aussi quelle est la prédiction d'un individu à développer une maladie, je pense à Angelina Jolie par exemple, et pouvoir mettre en place, si ça existe, des mesures préventives.
Ça veut dire que les médecins se transforment un peu en Madame Irma ? Ils vont pouvoir vous prévenir, de dire, avec tel style de vie, puisqu'on parle de maladies qui sont 50% d'hérédité, 50% liées à l'environnement et puis à sa façon de vivre, on va dire, si vous vous comportez comme ça, vous, monsieur, vous n'aurez aucun souci, alors que vous, monsieur, par contre, vous allez développer tel ou tel style de maladie.
Alors, effectivement, c'est important d'abord de réaliser que c'est qu'un outil supplémentaire dans l'arsenal, si vous voulez, diagnostique de la médecine. On n'assiste probablement pas à une révolution complète de la médecine. On a simplement un outil qui n'existait pas il y a 20 ans, qui n'existait pas il y a 10 ans, qui n'existait pas il y a 5 ans. Un outil qui est à notre disposition pour pouvoir effectivement mieux diagnostiquer les maladies, mieux pouvoir les prendre en charge et mieux pouvoir les prévenir. Aujourd'hui, on ne parle pas de thérapie génique. On ne parle pas de modifier le génome d'un individu qui aurait une susceptibilité, par exemple, à la maladie coronarienne, c'est-à-dire à l'infarctus du myocarde. On parle beaucoup plus. Où peut-on intervenir ? On peut intervenir sur le mode de vie, effectivement. Mais un individu qui a un risque élevé de faire, par exemple, une maladie des poumons, ou une maladie des reins, ou une maladie du cœur, cet individu-là, on va lui dire, attention monsieur, attention madame, vous avez un risque génétique qui est relativement élevé, peut-être plus élevé que la population, il y a des mesures préventives qu'on peut vous offrir, utilisez ces mesures préventives. Si quelqu'un a un risque coronarien élevé, on va lui dire, attention monsieur, arrêtez de fumer, ne fumez pas, ou bien on va baisser votre tension plus bas qu'on ne baisserait avec quelqu'un qui a peut-être un risque génétique plus élevé, plus bas.
Raphaël et Maline Verdi, vous vouliez réagir?
Je suis d'accord, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, l'écart est énorme entre définir un risque pour une maladie sur la base du génome à titre préventif et ce qu'il faut faire. Je donne un exemple un peu simple, si vous voulez. On sait que ce qu'on appelle le healthy lifestyle, donc de pas fumer, de contrôler la tension, etc., prévient les complications de l'athérosclérose. Il faut pas une médecine génomique pour cet aspect. C'est clair que si on peut, sur la base de l'analyse du génome, dire à quelqu'un qui est en parfaite santé, vous devez faire ça, ça et ça et ça, il faudra démontrer aussi, ça a été fait dans une grande étude rétrospective très intéressante récemment d'ailleurs, que ça lui apporte quelque chose. Mais il y a encore l'être humain entre les deux, donc ça va pas tout seul de dire vous avez un risque, il faut faire ça, ça et ça. Il faudra aussi le faire, il faudra vivre avec le risque. Donc là, on ouvre des portes toutes neuves pour beaucoup de gens qui doivent être prêts. Les patients, non, les personnes en bonne santé elles-mêmes, de vivre avec cette réalité. Et de l'autre côté, il faut aussi être prêt du côté des médecins de premier recours qui devront jouer un grand rôle, les hôpitaux, etc., de bien expliquer et de conseiller ces patients. Pour le moment, je pense qu'on n'est pas vraiment prêt à conseiller sur la base d'une médecine génomique des patients qui sont en bonne santé. Mais qu'est-ce que ça veut dire si je donne un exemple à entre 50 et 60 ans, j'ai un risque, on peut pas le dire aujourd'hui hein, avec cette certitude, mais je donne un exemple, j'ai un risque de 25% de développer une maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que ça? Donc c'est un défi énorme, un pour les patients, deux, pour le système de santé. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire les recherches adéquates pour essayer de cerner ce risque et de donner des conseils. Mais on n'y est pas du tout à pouvoir implémenter une telle approche. Malheureusement, faut dire malheureusement, on est une société marchande, donc il y a des compagnies qui disent tu craches dans un bocal, tu nous envoies ta salive et on va te faire un profil génétique pour certaines maladies. En dehors des systèmes de santé, sans conseil des professionnels de la santé, et puis on peut, ça peut déjà se faire aujourd'hui pour $100. Donc, et puis ils vont chez le médecin et disent maintenant, mon cher, tu m'expliques ce que ça veut dire. Je dis là, il y a de grosses difficultés qui nous attendent si les gens devaient décider d'une telle approche. Donc le CDC, qui est le Centers for Disease Control américain, monitore ça très bien. C'est un peu notre office fédéral de la santé, un peu plus sophistiqué, etc. Ils ont édité en 2017 leur slogan, dire pense avant de cracher, think before you speak. Et je crois que c'est important. Je crois que c'est très important que les gens comprennent ce que ça veut dire, les conséquences que ça peut avoir, les angoisses que ça peut inutilement produire. C'est un problème social réel. Qu'est-ce que t'en penses, Vincent?
Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des applications de la médecine génomique qui font pas de doute aujourd'hui. Par exemple, le test prénatal non invasif en analysant le génome du fœtus dans le sang maternel ne fait pas d'ambiguïté aujourd'hui. Le diagnostic d'un retard mental ou le diagnostic moléculaire d'une mucoviscidose ne fait aucune ambiguïté aujourd'hui. C'est un outil qu'on a. Par contre, les applications que tu mentionnes, elles soulèvent des questions énormes. Le problème, c'est qu'on doit répondre à ces questions. On ne peut pas mettre la tête dans le sable. Cette technologie, elle est là. Les gens veulent savoir. Beaucoup de gens veulent savoir. Les gens payent pour savoir. L'exemple que tu prenais de cette compagnie californienne, les gens payent pour savoir. Cette compagnie a reçu aujourd'hui de la FDA, donc l'équivalent de Swissmedic en Suisse, l'approbation pour diagnostiquer 10 maladies, et c'est pas des maladies moindres, c'est Parkinson, c'est Alzheimer, c'est d'autres maladies comme la maladie cœliaque. C'est pas du tout anodin, et comme tu le dis très bien, il n'y a pas de médecin là au milieu. Donc je pense que là, on a une responsabilité, que ce soit dans le monde académique, mais dans les hôpitaux publics aussi, et dans les institutions publiques, de vraiment mettre en place les outils qui nous permettront d'offrir à la population les bénéfices de cette médecine génomique, tout en minimisant les risques.
On rappelle que ce matin, on est en compagnie de Vincent Moser, chef du département des laboratoires du CHUV à Lausanne, et le professeur Raphaël Maïn-Verny, chef du département de médecine de l'hôpital Le Châtelois. Vous participez à une conférence ce soir à l'hôpital pour Thalès, une conférence justement sur la médecine génomique. Dans le futur, le génome de chaque personne sera décrypté pour un suivi personnalisé tout au long de son existence.
Je peux prendre ça?
Bien sûr.
C'est une question très pertinente. J'ai pas la réponse. Là, j'ai pas la réponse parce que je n'ai pas de boule de cristal qui me permettrait de répondre. Mais je peux vous donner des pistes. Je pense que d'ici quelques années, je sais pas si c'est 5, je sais pas si c'est 10, je sais pas si c'est 15, je pense que le séquençage du génome, qui va coûter 200 francs, fera partie du bilan de santé d'un individu. Ensuite, comment est-ce qu'on va utiliser cette information pour vraiment faire bénéficier cette personne? Ça restera encore à déterminer. On peut imaginer des scénarios, on peut imaginer que notre génome soit sur un cloud quelque part, que lorsque j'ai une pneumonie ou une infection urinaire, j'ai besoin d'un antibiotique, et que le pharmacien ou le médecin interroge le cloud et lui dit, est-ce qu'il y a une susceptibilité, par exemple, à développer un effet secondaire?
Il ne faut pas oublier le mot de passe, alors. Hein.
Alors, il ne faut pas oublier le mot de passe, ça pose des questions qui sont fondamentale. À qui appartiennent ces données? Comment sont-elles sécurisées, etc. Là aussi, il y a un gros effort, notamment en Suisse, qui est mis en place pour pouvoir mettre en place les outils informatiques, IT, bioinformatiques, pour que ces données soient suffisamment protégées, sécurisées et naturellement utilisées à bon escient.
Ça serait une sorte de super dossier électronique du patient, finalement, puisque ça, c'est un des thèmes aussi d'actualité dans notre pays actuellement.
Alors absolument, ça va compléter le dossier médical électronique. Maintenant, quand c'est que ça va arriver, je ne sais pas, mais je sais que ça va arriver. Ça fait aucun doute.
Je voudrais faire un commentaire sur le terme « personnalisé ». Si vous demandez aux médecins aujourd'hui, est-ce que vous faites une médecine personnalisée, ils vont dire oui, on fait une médecine personnalisée, on tient compte du contexte social, du patient, de ce qu'il veut, etc. Donc je crois que le terme est un peu un terme de marketing, de dire la génétique va permettre une médecine personnalisée. Je crois que le terme de précision est meilleur, c'est personnalisé, certainement, mais il y a tout un aspect de la prise en charge d'un patient et de ce qu'il veut qui va au-delà de décryptage du génome individuel. Et je ne suis pas sûr que l'axiome de base de la médecine, qui a toujours été important, donc la médecine, les critères plus durs de la médecine et des progrès est que les gens vivent plus longtemps et mieux. Je me pose la question aujourd'hui, parce qu'on va jamais être éternel, c'est sûr. Est-ce que c'est vraiment le cas pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre toujours plus longtemps, mieux? Ils savent que c'est pas nécessairement possible. Est-ce qu'il y a des choix individuels à faire, des gens qui refuseront? Je ne sais pas si la philosophie dans la population va dans cette direction. Donc, je suis d'accord, évidemment, avec ce qu'a dit Vincent, où on peut aller pour éviter, pour mieux cibler les investigations, pour éviter des effets secondaires et tout ça. Mais le terme personnalisé est pas le bon, à mon avis, parce qu'il néglige tout un aspect de la prise en charge d'un patient ou d'une patiente qui n'a rien à voir avec l'analyse génomique, en fin de compte.
Donc en fait, ces questions, la médecine génomique, elle pose des questions médicales, elle pose des questions éthiques, elle pose des questions philosophiques, elle ouvre effectivement énormément de portes qui seront poussées ce soir lors de cette conférence. En deux mots, est-ce que cette médecine, elle ouvre un peu plus de risques d'eugénisme?
C'est, je crois, une question intéressante. On en parlait avec Vincent en venant ici. Quelle est la réception de la médecine génomique, par exemple en Allemagne, en Suisse alémanique? Moi, j'avais l'impression, en regardant ce qui a été fait, qu'il y a eu en Allemagne une discussion furibonde des instituts plus importants, 2011-2012, sur cette médecine génomique. Pourquoi je cite l'Allemagne? Je cite l'Allemagne parce que, et les cultures allemandes ont subi, vous le savez, il n'y a pas longtemps, il y a 60 ans un peu plus, un traumatisme énorme pour la sélection de race, et donc ils sont extrêmement sensibles à ce qui peut concerner ces questions d'eugénique, eugénisme. Je crois le risque d'eugénisme, il existe avec ou sans la médecine génomique, et c'est une réponse sociale qu'il faut donner. C'est une réponse de la population qu'il faut définir, et c'est pas une question qui appartient uniquement aux médecins ou aux généticiens, etc. Donc c'est une question extrêmement importante. Le risque, il existe avec ou sans médecine génomique, qu'on marginalise des gens qui ont des défauts, qui ont des handicaps, etc., pour des questions sociales ou parce qu'ils coûtent trop cher. Donc, c'est dans ce cas-là qu'il faudra donner une réponse. C'est pas en soi la médecine génomique, je pense, mais c'est une question d'éducation, de sensibilité de la population générale. Donc, cette médecine génomique, elle devra intéresser. C'est pour ça qu'on fait la conférence.
La conversation, elle va se poursuivre. Elle est passionnante. Ce soir, dès 19h, à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel. On mettra évidemment toutes les informations tout à l'heure sur la page de Format 3. Puis on vous remercie infiniment d'avoir participé à ces échanges ce matin.
Merci. À ce soir.